Voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Des vitrines sombres, des rideaux de fer baissés, des panneaux à vendre ou à louer devant d'anciens magasins fermés faute de clientèle. Aujourd'hui, nous parlons des villes en crise. Des villes de taille moyenne, au centre dépeuplé, désaffecté, bientôt villes fantômes. On connaissait le phénomène aux États-Unis avec les shrinking cities, ces villes que les habitants fuient pour vivre plus près des hypermarchés en périphérie, là où ils préfèrent faire leurs courses. Et bien, cette crise urbaine touche maintenant la France et d'autres pays en Europe. Pourquoi autant de villes sinistrées alors qu'ailleurs sur la planète, la croissance urbaine explose? Ils sont quelques-uns à lancer l'alerte, portés par l'amour de leur ville, parfois enragés, parfois désespérés et toujours nostalgiques. Bonjour Olivier Razemont.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, passionné par la mobilité et les transports urbains. Vous avez vous-même d'ailleurs parcouru de nombreuses villes françaises et de ce voyage vous tirez un livre, Comment la France a tué ses villes. Tuer, c'est un mot fort.
C'est un mot fort, oui.
Mais un mot juste.
C'est un mot fort, la couverture est triste, mais le récit est encore plus triste, malheureusement.
On en parlera. Rémi Beurion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par téléphone, journaliste au Berry Républicain, un quotidien local du centre de la France. Et puis surtout, vous animez un blog consacré à votre ville de cœur, la ville où vous êtes né, Vierzon, qui est en première ligne de cette crise urbaine. Également avec nous, Martine Donnette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de France Bleu Provence, ancienne commerçante. Vous vous êtes lancée après la faillite de votre boutique dans une bataille contre la grande distribution. Et nous serons aussi en ligne avec le maire de Mulhouse en Alsace qui lui tente coûte que coûte de sauver son centre-ville. Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Chez vous, le centre-ville est-il déserté pour la périphérie? Comment lutter contre la mort des centres-villes et puis des villes tout court d'ailleurs? On attend vos appels, vos points de vue, vos questions pour nos invités au 33 1 84 22 71 71. Et puis, vous pouvez bien sûr nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous réagissez déjà sur Facebook, les voisins. José nous écrit de Tananarive à Madagascar. Chez nous, on ne peut pas parler de désertification du centre-ville. On est encore loin de ce phénomène. Au contraire, la population s'entasse de plus en plus dans le centre-ville. Saliou Sira est lui à Conakry. Il confirme, il dit, je cite, « Chez moi, je constate que tout le monde veut au contraire rester dans le centre, même si la vie est très chère. » Et puis Brice nous écrit depuis Yaoundé au Cameroun. Lui, il aime sa ville. Il écrit « L'État a fait construire des squares et des jardins dans tout le centre-ville. Il décore la ville avec le rythme de vie des villes. J'aime me reposer dans ces squares et y profiter de l'air pur. » Olivier Razemont, quel est ce mal qui semble tout d'un coup saisir, ronger même les villes françaises, les villes moyennes?
Alors, c'est une maladie de pays riches, en fait. Vous venez de le dire finalement en creux, puisqu'effectivement, à Conakry, à Yaoundé et à Tananarive, ça ne se passe pas comme ça. Mais par contre, à Montauban, à Saint-Brieuc, à Avignon, on constate d'abord ce qui est maintenant devenu évident pour tous les habitants de la ville, c'est ces vitrines vides que vous avez décrites. Et puis, on constate aussi, vous l'avez dit, la ville qui se dépeuple, le nombre d'habitants qui diminue. Les gens ne vont pas forcément habiter très loin, ils vont à 3-4 km aux alentours. Et d'une manière générale, le dynamisme de la ville décroît. Il y a moins de monde en ville, il y a moins d'activités. Et l'activité, finalement, se fait de plus en plus dans un rayon plus vaste, beaucoup plus large qu'il y a à l'étalement urbain, dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, au détriment notamment du centre-ville, mais aussi des quartiers anciens de la ville.
Des autres quartiers, en fait, qui composent la ville. Alors là, on ne parle pas des métropoles, qui se portent en général très bien, mais plutôt des villes de taille moyenne. Qu'est-ce que c'est une ville
Alors,
de taille moyenne?
Une ville moyenne, la définition n'est pas... La ville moyenne, c'est 2 millions d'habitants à l'échelle du monde et c'est 10 000 habitants à l'échelle d'un département. Donc, c'est évidemment pas si simple, mais simplement en France, en tout cas, ça concerne les villes qui ont moins de 200 000 habitants, à peu près toutes, à l'exception quand même des villes touristiques. Et puis, évidemment, les métropoles ne sont pas concernées ou beaucoup moins concernées. Ce qui explique d'ailleurs d'ailleurs la méconnaissance un peu du sujet dans les métropoles, et en particulier à Paris, où on ignore un peu ce qui se passe dans les villes. On sait qu'il y a des vitrines vides. On a tendance à résumer cette question-là à une histoire de petits commerçants. Et puis, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est vraiment toute la ville qui est en train de se dévitaliser. Et à Paris, on croit que finalement, avec un peu de croissance et d'emploi, on va régler tous les problèmes. Ou alors, ce qu'on me dit de temps en temps, c'est « Ah oui, c'est une histoire de ruralité. » Non, mais ce n'est pas la ruralité. Saint-Étienne, Dunkerque, Perpignan, Mulhouse, ce n'est pas des zones rurales. C'est des vraies villes. C'est des villes
c'est
qui
la
ont
province,
une
mais ce sont des villes.
C'est des villes qui ont une histoire. C'est des villes qui sont belles, qui ont des choses à raconter, où il y a beaucoup de monde, où il se passe beaucoup de choses, en fait, mais qu'on ne connaît pas parce qu'effectivement, qu'on ne connaît pas à Paris forcément parce qu'elles ne sont pas directement liées par TGV ou c'est un peu plus loin, où on ne prend pas le temps de s'y promener. Et je pense qu'il est extrêmement instructif de se promener dans ces villes, d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer plein de gens.
Et cette crise urbaine, vous le dites, concerne beaucoup de monde, hein, puisque plus du tiers de la population française, voire même la moitié, vous l'écrivez dans votre livre, vit dans ces villes moyennes.
Exactement. On a tendance à oublier. On croit qu'en gros, il y aurait d'un côté Paris, les métropoles, et puis de l'autre, les campagnes. En fait, non. Il y a toutes ces villes qui sont très importantes. Il y a Vierzon, il y a Bourges, il y a Quimper. C'est des villes de 20, 30, 40, 50 000 habitants dans lesquels beaucoup de monde vit et c'est très étrange, ça n'apparaît pas dans le radar. Alors il y a comme ça quelques inquiétudes quand même de temps en temps. Alors je dis à Paris, c'est pas d'anti-parisianisme du tout, mais simplement dans les métropoles et notamment de la part des responsables d'ailleurs politique, économique ou médiatique, d'un seul coup, on se dit « Oh là là, mais il faudrait quand même pas que tous ces gens se mettent à voter Front National », donc on s'inquiète un petit peu de ces villes-là. Et il y a très souvent, moi je suis frappé par cette méconnaissance, oui, il y a presque la moitié des gens en France qui habitent dans ces villes et qui font plein de choses.
Vous lancez l'alerte hein, sur ce sujet, vous n'êtes pas le seul. Rémi Berion, vous observez le phénomène à Vierzon, une ville dans le département du Cher, dans le centre de la France, une ville où vous êtes né, où vous avez longtemps vécu. Quel constat vous faites, vous, à Vierzon, dans cette ville-là?
Ben, le constat est en fait celui que dresse Olivier dans son livre, peut-être avec plus d'acuité, parce que nous, à Vierzon, on a eu deux chocs. En fait, on a eu le choc industriel, c'est-à-dire l'effondrement des industries, et arrive là-dessus l'effondrement du commerce. Alors ça se traduit par quoi ? Eh bien, concrètement par des rues entières où les commerces vides sont plus nombreux que les commerces ouverts. Moi, j'ai fait un calcul, hein, j'ai pris un crayon, un calepin, je suis allé rue Joffre, hein, qui est une rue piétonne en plein centre-ville, et sur 48 pas de porte, nous avons 32 pas de porte fermés et seulement 16 ouverts.
Voilà. Donc 32 donc commerces fermés et 16
exact,
ouverts.
Exact, voilà. Voilà.
Donc deux tiers voilà. En fait donc, de commerces fermés.
Ouais, on a deux fois plus de commerces fermés que de commerces ouverts. Et là où c'est grave, c'est pour ceux qui restent, pour les commerces qui restent. Parce que qu'est-ce qu'un commerce peut faire encadré par deux commerces vides? Et puis qu'est-ce que des gens peuvent faire dans une rue piétonne où il n'y a plus personne? Voilà. Et c'est d'autant plus rageant que moi j'ai connu, j'ai pas l'âge de tout en camon, mais je suis né en 1968, j'ai connu la ville avec des commerces, avec des grands commerces. Ce qu'on appelle des grands magasins, hein, à la Zola, quoi, en fait, un petit peu ça. Et aujourd'hui, pour aller acheter quelque chose ou pour, je sais pas, acheter un costume ou un truc comme ça, il faut pratiquement aller en périphérie, ce qui est complètement idiot, quoi. Et ça se traduit aussi par quoi ? Eh bien, il y a un autre phénomène qu'Olivier, effectivement, a très bien résumé dans son livre. C'est qu'à un moment donné, le centre-ville devient pauvre parce que les gens qui ont un petit peu de pouvoir d'achat, eh bien, ils vont en périphérie, les centres-villes deviennent pauvres, et c'est comme ça, par exemple, que le centre-ville de Vierzon, une partie, est rentrée dans la liste des quartiers pauvres que dresse le gouvernement. Enfin, il y a une liste qui existe, et on est dedans. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des aides, etc. Alors et, là, ça devient compliqué.
Et combien d'habitants a perdu la ville de Vierzon? Vous avez une idée?
Ouais, dans les années 80, on était à peu près à 36 000 habitants, on est aujourd'hui à 27.
27 000 habitants.
Voilà, à peu près, on a perdu 9000 habitants, mais ils sont pas loin, hein, effectivement. Ils sont à 3-4 kilomètres dans des communes périphériques, parce que d'abord, les impôts fonciers locaux sont beaucoup moins chers, la qualité de vie est différente, et il y a tout un engrenage, en fait. Alors, le commerce, le problème de la crise du commerce, en fait, ça va bien au-delà d'un simple commerçants. C'est effectivement ce que dit Olivier, quoi. C'est pas qu'une question de commerce, c'est un tout. C'est de l'aménagement du territoire, c'est des élus qui, effectivement, d'un côté, vont dire « Ah bah oui, et encore, ils sont pas nombreux, les petits commerces meurent », mais qui vont, effectivement, donner leur autorisation pour qu'il y ait des grandes surfaces qui s'installent. C'est tout un paradoxe, en fait, et aujourd'hui, il y a une espèce d'escalade, je dirais, à la vacance commerciale et qui tue les villes, complètement.
Alors, Martine Donnette, c'est la grande distribution qu'il faut blâmer, hein, celle qui va installer d'immenses centres commerciaux en périphérie. Vous, en tout cas, c'est elle, hein, qui a causé votre faillite. C'est ce que vous écrivez dans un livre publié sur le sujet « Seul face aux géants ». Vous aviez un magasin de laine dans une galerie commerçante, mais vous avez dû fermer à cause de l'extension de l'hypermarché voisin. Aujourd'hui, vous combattez, vous, la grande distribution. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette grande distribution ?
Mais il y a plusieurs choses. Déjà, je vais revenir sur le fait que si aujourd'hui la grande distribution a la place qu'elle a, c'est uniquement à cause des élus. Parce que ce sont les élus qui signent les autorisations, ce sont les élus qui signent les permis de construire. Et dans les commissions d'aménagement commercial ou les commissions nationales d'aménagement commercial, il n'a absolument pas de représentant des commerçants. Les commerçants ont été évincés de toutes les commissions. Alors ça, c'est la première chose, hein. Il ne faut pas dire que les élus ne sont pas au courant. Ils savent pertinemment. Ils décident entre eux la mort du commerce indépendant. Ça, c'est le premier constat. Nous, on a fait un rapport. Comment la loi Royer a été massacrée. Ça a commencé en 1996 quand ils ont retiré le certificat d'urbanisme. Et après, en 2008, sous le gouvernement de Monsieur Sarkozy et de Monsieur Fillon, lorsqu'ils ont supprimé les critères à l'emploi, ils ont supprimé tous les critères qui permettaient de freiner l'expansionnisme de la grande distribution. Alors, en plus, s'il n'y avait que ça, mais en plus, la grande distribution, elle se permet de construire sans permis de construire ou sans autorisation de CDEC, sachant que l'État ne va absolument pas comment contrôler toutes ces surfaces illicites.
On en reparlera. Alors là, on parle de la France, mais les États-Unis sont aussi touchés par cette crise urbaine, cette mort lente des centres-villes. Un exemple, Joliet, ville de 140 000 habitants au sud-ouest de Chicago, dans l'Illinois. Une ville qui a longtemps été ouvrière, hein, réputée pour son acier, mais qui est en déclin depuis 30 ans avec la désindustrialisation. Notre reporter, Cerise Maréchaux, s'y est rendue. On la suit dans des rues désertes, presque abandonnée. Elle est guidée par Skyler Turk, 29 ans, vétéran de l'armée. Il gère aujourd'hui un entrepôt et travaille comme videur dans l'un des rares pubs qui restent dans la ville.
Là, on est dans Cass Street. C'était vraiment l'artère centrale de Joliet.
On est dans l'Illinois. C'est un vent glacial.
This is the street where basically all your businesses that once flourished are all gone.
Dans cette rue, tous les commerces autrefois florissants ont mis la clé sous la porte. Là, devant nous, c'était un vieux snack. Je me souviens du gars qu'il tenait. Frank, un mec super, un vieux monsieur vraiment très sympathique. Maintenant, c'est tout abîmé. La peinture blanche s'est écaillée, c'est tout vide.
Et ici, en fait, il y a un enchaînement de boutiques. Les portes sont condamnées, où on voit des bâches de plastique qui sont tendues derrière les vitres.
Oui, il y a Jensen Electronic Store, fermé. Studio Couture, qui d'ailleurs a fermé l'an dernier. C'était la dernière boutique de chaussons de danse à Joliet. Là, c'était une galerie d'art, fermée aussi. Ces locaux sont alloués, mais vu que le marché de l'immobilier s'est effondré après la crise de 2008, personne n'est preneur. Par ici, on trouve l'un des plus vieux barbecues de Joliet. Son propriétaire est mort il y a 6 mois, Ed Herald. 4 générations l'ont précédé. Je me souviens, quand j'étais au lycée, c'est là qu'on venait traîner après les cours. On fumait pas mal de joints, alors dès qu'on avait une fringale, on venait ici et il nous préparait à manger. Le seul magasin qui tient debout dans cette rue, depuis 75 ans, c'est l'électricien, là, juste en face.
Et donc, on voit à notre droite, il y a un stade de football, il y a un lycée, là-bas, un peu plus loin. Y a-t-il un hôpital ?
Oui, on en a 2.
Donc, Joliet n'est pas une ville fantôme. Il y a des services. Mais c'est vraiment très vide. On est un samedi et c'est entièrement vide.
It's your typical, you know,
C'est un centre-ville américain typique, en tout cas pour une ville moyenne. Les gens sont partis et les grosses franchises ont débarqué. Les supermarchés Walmart, Target, et ils ont pris toute la place. Surtout quand la banlieue ouest a commencé à se densifier, en fait. Beaucoup de monde a déménagé là-bas et le centre-ville a été laissé à l'abandon. Je m'en souviens très bien. C'est quand le premier centre commercial, le premier mall, a ouvert, juste au bord de l'autoroute. C'est cette autoroute 80, à 7 blocs d'ici, qui nous emmène vers la banlieue ouest. Pour Joliet, ce centre commercial compte énormément. Un énorme hexagone avec plein de magasins, des restaurants, un cinéma depuis pas très longtemps. Tout le monde pensait que ça n'attirerait personne. Au contraire, ça a marché du tonnerre, au point de saigner à blanc tous les petits commerces. C'est tout le temps bourré de monde. Même moi, j'y vais, parce que le magasin d'accessoires automobiles est là-bas. Et il faut bien que je remplace des pièces sur mon camion. Et pourtant, je le déteste, ce mall. Quand j'étais petit, le centre-ville me manquait. Et je détestais aller au mall avec ma mère et ma sœur, parce que mon père refusait catégoriquement d'y mettre les pieds. Donc, je me retrouvais le seul mec. Vraiment, il fallait me forcer pour y aller. Après, quand j'étais ado, oui, j'y allais plus souvent, pour faire comme les autres, quoi.
Et comment ça se fait que vous vous souvenez de cette ouverture si bien ?
En fait, je me souviens surtout de la réaction de mon père quand on passait à côté en voiture pendant sa construction. Mon père, il était ouvrier dans le bâtiment. Mais c'est une grosse entreprise qui a remporté le chantier contre la petite boîte où mon père travaillait. Il était furieux. Il rentrait à la maison, cognait les murs, cassait les bouteilles de whisky. Il a perdu son boulot. Et le lien avec le centre commercial, c'est que ça symbolisait comment les grosses entreprises écrasaient les petites. Plein d'emplois ont été détruits. C'était vraiment triste d'assister à ça quand j'étais gamin, car pendant toute une période, il y avait carrément une limite d'âge pour venir en centre-ville, car c'était devenu violent et dangereux. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il y a un peu plus de passages de gens et de voitures. On a un ou deux prêteurs sur gage, quelques cafés, des petits bars, un opticien, un assureur de voitures et un ou deux salons de coiffure. Et puis, tout un tas de banques. Mais c'est à peu près tout.
Ce qui arrive au centre-ville de Joliet, ici dans l'Illinois, au sud de Chicago, vous avez vu ça dans d'autres villes américaines ?
C'est clair, dans tous les États-Unis. Pas les très grandes villes, mais les coins modestes comme Joliet, oui. C'est la même histoire un peu partout.
Reportage signé Cerise Maréchaux à Joliet, ville au sud-ouest de Chicago. Olivier Rasmont, que vous inspire ce reportage ?
Alors, c'est 140 000 habitants. C'est à peu près la taille de Perpignan ou de Nîmes. C'est très inquiétant si on continue comme ça, si on continue effectivement à développer des centres commerciaux, mais tout le reste, enfin l'étalement urbain de manière plus générale, on risque d'avoir ça en France aussi dans quelques années. C'est une tendance qu'il faut absolument contrer. Là, heureusement, la fin est un peu plus optimiste de ce reportage et il y a encore quelques personnes qui vivent là et qui ont envie de faire vivre leur ville. Et je crois que l'avenir, il est là. Il est les habitants de la ville qui peuvent se mobiliser et se dire, attendez, mais là, on est en train de disparaître. Alors, cela dit, effectivement, aux États-Unis, les villes ont une histoire moins longue. Elles ont connu une croissance relativement récente à l'échelle de l'histoire, alors qu'effectivement en Europe elles sont plus anciennes. On peut imaginer que la capacité de résilience soit plus forte, et on peut espérer quand même qu'en Europe on sache puiser dans l'histoire des éléments qui permettent d'aller plus loin, en fait.
Et en Europe, où est-ce qu'on assiste à cette crise urbaine, à part en France ?
Il y a la même chose en Wallonie, exactement la même chose.
En Belgique.
Il y a des choses similaires en Angleterre, beaucoup. Parce que là, l'offensive de la grande distribution, notamment, a été très, très forte. Dans l'Est de l'Allemagne, évidemment, aussi. Mais on constate que, d'une manière générale, l'Allemagne et l'Italie ont tendance à mieux résister, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que le rapport à la ville n'est pas le même. Les villes ont une histoire plus ancienne. Elles ont, depuis très longtemps, des universités, par exemple. On y tient beaucoup. En Italie, les villes sont quelque chose qui font partie vraiment du patrimoine. Alors qu'en France, la France était un pays plus rural pendant longtemps, et on a finalement installé un peu partout des préfectures, alors qui étaient pour certaines déjà des villes importantes, mais d'autres qui étaient finalement un peu des bourgades, qui sont devenues des préfectures du jour au lendemain, ou à peu près il y a 200 ans. Et donc on a un peu moins cet attachement à la ville. Et puis il y a une autre chose qui joue énormément, c'est qu'en France, il y a toutes ces communes, ces très nombreuses communes.
Beaucoup de communes. Alors
avec cette
on verra comment ces communes vont pouvoir résister. Olivier Rasmont, Rémi Beurion, Martine Donnette, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash, dans 3 minutes.
Découvre 7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez au chevet des villes de province qui se meurent. Aux États-Unis, en Belgique ou en France, elles sont asphyxiées par les supermarchés de la périphérie, des complexes de plus en plus étendus où on peut tout acheter au même endroit, pendant qu'en centre-ville, les boulangeries, les épiceries ferment les unes après les autres. Après l'ère des déserts médicaux, voici venus les déserts alimentaires. C'est l'expression que vous employez, Olivier Rasmont, journaliste, auteur d'un livre sur le sujet. Comment la France a tué ses villes, publié tout récemment aux éditions Rue de l'Échiquier. Avec nous également Martine Donnette, ancienne commerçante, aujourd'hui vent debout contre la grande distribution, et Rémi Beurion, journaliste, lanceur d'alerte, qui entend sauver sa ville, Vierzon, et ses 27 000 habitants dans le centre de la France. Les voisins, les voisines, on attend vos appels, vos questions, si vous en avez pour nos invités. Vous nous appelez au 33 84 22 71 71, et puis vous pouvez bien sûr nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et nous sommes en ligne avec le maire Les Républicains de Mulhouse, en Alsace, Jean Rotner. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de la ville depuis mai 2010, réélu en 2014, et vous avez lancé plusieurs initiatives pour revitaliser votre centre-ville. Alors, en quoi consistent-elles, ces initiatives ?
Écoutez, je crois que le maire, il doit être vraiment fer de lance. C'est lui qui doit mener une politique économique à visée commerciale extrêmement ambitieuse. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, de réunir tous les acteurs de ma ville et de chasser en meute. Et bien 4 ou 5 ans plus tard, c'est plutôt un succès, puisque là où nous fermions de manière assez régulière des enseignes, mais quand il y en a une qui ferme actuellement, il y en a 2,3 qui ouvrent. Et donc nous avons inversé la courbe. Et nous sommes dans une tendance extrêmement positive. Nous avons travaillé sur le stationnement, nous avons travaillé sur la circulation, nous avons travaillé sur les façades avec un fond façade pour réhabiliter tout notre centre-ville. Nous avons surtout mis en confiance l'ensemble des acteurs économiques avec un manager du commerce qui travaille à leur côté au quotidien. Et puis nous sommes présents dans un certain nombre de rendez-vous internationaux ou nationaux liés au commerce, pour bien montrer justement ce dynamisme, cette envie de réussir. Et aujourd'hui, Mulhouse est peut-être un contre-exemple de ce que l'on vit dans les villes de cette taille.
Vous parlez du stationnement. Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à cette question ?
J'ai simplifié simplement les paiements. J'ai introduit du paiement électronique, le SMS, les applications. J'ai introduit du paiement gratuit pendant 30 minutes à proximité de mon hypercentre. Quand on va déposer une paire de chaussures chez le cordonnier, il ne faut pas réfléchir pendant 150 ans ou savoir se stationner. Il y a des zones spécifiques, dédiées, qui permettent des courses rapides, par exemple.
L'hypercentre qui est piéton, hein, il me semble.
Il est en partie piétonnisé, mais je refuse là aussi d'opposer la voiture au commerce. C'est une complémentarité bien sentie, bien comprise, bien expliquée. Il faut être pédagogique et il faut faire évoluer progressivement les mentalités dans ce domaine.
Vous avez mis en place aussi une initiative depuis quelques mois qui s'appelle « Je dis oui ». Alors, vous nous expliquez en quoi ça consiste, cette initiative-là ?
Bien, pour faire venir les chalands un petit peu plus, ou à des horaires inhabituels, un jeudi par mois, les horaires de fermeture, ce n'est plus 19h, mais 20h, 20h30. Et les commerçants se plient en quatre pour accueillir correctement, encore mieux que d'habitude, leurs clients. Ils leur payent l'apéro et quand il y a un achat qui est fait, par exemple, effectivement, il y a une contre-marque et les clients peuvent aller consommer dans un bar un apéritif. On favorise finalement le moment de plaisir à faire les courses, à rester et à prolonger sa présence en cœur de ville.
L'idée, c'est d'encourager les clients à venir dans les petits commerces avec cette perspective de l'apéritif offert ailleurs.
L'apéritif offert et après l'apéritif, il y a le repas. Et donc, on a toute la chaîne complète qui est étudiée, qui est favorisée et qui devient plus connu finalement de la part des clients qui sinon ne viendraient pas forcément au centre-ville.
Et prolonger les horaires d'ouverture jusqu'à 20h, ça vous sentez que c'est quelque chose qui peut être important pour faire venir aussi les gens, les consommateurs ?
Je ne sais pas s'il faut le faire systématiquement, parce que dans notre pays, les charges sont lourdes, le temps de travail, c'est pas aussi simple que ça, donc c'est ce que m'opposent très souvent les commerçants. Par contre, de manière épisodique, favoriser ce retour à la ville, à la consommation, le rapport différent dans un moment peut-être où il y a moins de clientèle entre le commerçant et le client, c'est un moment tout à fait favorable. Il y a des commerçants qui réussissent très bien à ce moment-là, il y en a qu'il faut encore encourager, mais ce que je constate, c'est qu'il y en a de plus en plus qui demandent à adhérer à ce moment.
Pour sauver les villes, certains disent aussi qu'il faut d'abord, avant tout, s'opposer à des projets de construction de nouvelles zones commerciales, donc en périphérie des villes, et puis aussi aux projets d'extension de celles qui existent déjà. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous mettez en œuvre dans votre programme ? Est-ce que vous essayez de mettre fin à cet étalement commercial autour de Mulhouse ?
On a de très fortes zones commerciales autour de Mulhouse et la discussion entre nous n'est pas simple, c'est vrai. Il faut bien faire comprendre que l'aménagement appartient aux élus, pas aux promoteurs immobiliers, pas aux grandes enseignes. C'est à nous d'être maîtres de notre foncier.
Et c'est pas évident ça de se faire respecter par rapport à ça ?
C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident aussi de ne pas arriver à se faire concurrence, mais que cette concurrence entre villes, entre communes, soit bien comprise. La création de grandes surfaces, c'est pas forcément à terme, à moyen et long terme, la création d'emplois. Il faut bien être conscient. Et très souvent, les promoteurs disent, vous installez 2000, 3000, 6000, 10 000 mètres carrés, ça va créer tant et tant d'emplois. Je crois qu'il ne faut pas réagir comme ça. Il faut être en capacité de reconvertir d'anciennes friches, d'anciennes zones commerciales. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut prendre des documents qui sont à notre disposition, qui peuvent être réalisés comme le SCOT ou comme un document d'aménagement commercial avec des caractères restrictifs, bien compris, bien sentis et une vraie stratégie. L'agglomération y aide, mais au-delà de l'agglomération, c'est vraiment une réflexion au niveau des bassins de vie qu'il faut avoir. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, menacés, nous, par des grands retail qui risquent de s'installer à proximité de ma ville et qui sont sur des surfaces de 100-120 000 mètres carrés. Ça pose véritablement question. C'est pour ça que en centre-ville, nous adoptons aussi la stratégie des centres commerciaux en termes de services, en termes d'opportunités, en termes d'animation.
En tout cas, vous essayez de freiner cette installation, vous le dites là, de nouvelles zones commerciales autour de la ville.
Nous n'essayons pas, nous réussissons là aussi. Nous le faisons de manière concertée, responsable et vraiment à l'échelle d'un territoire plus vaste qu'une simple commune.
Et que reste-t-il à faire pour favoriser le centre-ville ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous imaginez, d'autres initiatives ?
Je crois qu'il faut vraiment que les élus, que mes collègues maires prennent conscience qu'ils ont, eux, une première responsabilité, c'est de ne pas répondre forcément trop rapidement aux sirènes des promoteurs, d'être vraiment responsable. Mais c'est d'être aussi à la tête de mini-équipes qui décident de réussir, qui veulent réussir, qui inventent, qui sont agiles, qui ont des initiatives qui permettent de réussir. Il faut pas hésiter à aller pousser certaines portes, à se créer des réseaux, à bien connaître le fonctionnement finalement de toutes les enseignes. Vous savez, quand on négocie une surface à Mulhouse, c'est souvent qu'il y a 2, 3 ou 4 autres enseignes qui sont, ou surfaces commerciales, qui sont en train d'être négociées sur d'autres territoires. Il faut bien en avoir conscience.
Il y a une vraie concurrence.
Voilà, il y a une vraie concurrence. Et en même temps, quand une grande enseigne cherche à négocier avec un grand promoteur, c'est souvent 4 ou 5 surfaces qui sont négociées au même moment. Et il faut être dans le bon timing pour cela.
Merci Jean Rotner, maire de Mulhouse, d'avoir participé à notre émission. Merci pour votre temps. Olivier Razemont, que vous inspire toutes ces initiatives-là?
C'est très intéressant. Il y a une chose que le maire n'a pas dite, qui me semble très importante, c'est que Mulhouse est une belle ville. C'est qu'il y a à la fois un centre-ville très agréable, et puis il y a aussi une histoire ouvrière, des quartiers ouvriers qui sont intéressant aussi, il y a des musées, voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, pour le reste, effectivement, c'est manifestement une bataille de tous les jours. Tous les maires n'en sont pas là et n'ont pas compris qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Alors, il y a une autre chose qui m'a un peu sur laquelle je me pose des questions, c'est simplement la place des habitants dans tout ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des gens qui doivent venir, qui doivent venir d'ailleurs pour venir acheter des choses, mais il y a des habitants à Mulhouse. Il y a, je crois, plus de 100 000 habitants. Donc il y a,
110 000.
Voilà, 110 000. Donc il y a des gens qui sont là, qui vivent là. Et eux aussi, en fait, ils vont peut-être prendre l'apéro. Puis en plus de ça, comme s'ils viennent à pied, ils peuvent tout à fait prendre un deuxième apéro. Ils n'auront pas de problème après.
Martine Donnette, on l'a entendu là dans la voix du maire de Mulhouse, on dit souvent de la grande distribution qu'elle crée des emplois. Hein. C'est souvent l'argument qu'on donne pour autoriser leur installation en périphérie des villes. Qu'en pensez-vous ?
Alors, premièrement, il faut savoir que pour 2 emplois créés dans la grande distribution, c'est 7 emplois qui disparaissent. Et aucun élu ne veut tenir les analyses à ce sujet. On avait M. Charrier qui l'expliquait très bien. Malheureusement, il est décédé. Alors, pourquoi avons-nous supprimé le critère à l'emploi dans la loi de modernisation de l'économie en 2008 et qui n'a pas été remis par M. Hollande avec la loi Pinel? C'est parce que, tout simplement, on ne veut pas comptabiliser les conséquences de la perte d'emploi. Alors, les promoteurs, ils arrivent, c'est facile. Ils vous disent, moi, je vais créer 600 emplois, 1000 emplois. Mais étant donné qu'il n'y a absolument aucune analyse, c'est un peu facile de dire, je vais créer 1000 emplois, puisqu'on n'a pas les comptes de ce qu'ils vont détruire. On avait aussi l'inventaire des grandes surfaces qui fonctionnait parfaitement, qui avait été mis en place par M. Bérégovoy dans le cadre de la loi de la prévention de la corruption et de la transparence de la vie économique. Pourquoi Mme Pinel a refusé que ces documents soient publics? Oui. Alors, ces élus, ils sont bien gentils.
Oui, alors sans...
Ils ne veulent pas mettre... ils ne veulent pas publier les éléments qui sont à leur décharge, parce que c'est eux les responsables. C'est eux, parce que quand j'entends le maire de Mulhouse qui fait très bien son travail par rapport aux commerçants, mais quand je l'entends qu'il y a des projets de 100... On commencerait par mettre sur la table combien d'emplois vont être créés, combien d'emplois vont être détruits. Et ouais, il faut que les emplois, ça fait partie des droits fondamentaux. On n'est pas en train de revendiquer quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est dans la Constitution le droit au travail. Ça, c'est la première chose.
Oui, Olivier Razemont, vous voulez réagir?
Oui, en fait, bien sûr, il y a cette question-là. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de la municipalité qu'il faut une prise de conscience, c'est au niveau de l'État également. Et effectivement, vous avez retracé toutes les lois qui existent depuis qu'on a essayé de limiter un petit peu la grande distribution depuis la loi Royer 73, qui a déjà plus de 40 ans. Bon, en réalité, ces lois, elles ont été faites un petit peu pour défendre le petit commerce, parce qu'on s'est aperçu quand même que les petits commerçants, il ne fallait pas complètement les oublier.
C'était pour l'aménagement du territoire.
Mais en réalité, on assiste à une offensive massive. Donc c'est à tous les niveaux qu'il faut lutter. Et le niveau de la ville ne suffit pas. C'est au niveau national. Il y a un rapport qui a été remis récemment à la secrétaire d'État au commerce, Martine Pinville, de ce gouvernement-ci, du gouvernement qui est là encore pour apparemment quelques heures. Moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter les zones commerciales? Elle a été extrêmement prudente. Elle a rien voulu dire sur ce plan. Et je pense qu'il y a pas encore, on n'est pas encore arrivé au niveau de conscience, mais c'est pour ça qu'on est là pour le dire. En fait.
Il faut quand même savoir que la grande distribution emploie directement 600 000 salariés en France.
Oui, d'accord, mais la question n'est pas de détruire...
Plus de 2 millions, alors c'est facile.
La question n'est pas de détruire les zones commerciales existantes, elle est d'arrêter. Et là, aujourd'hui, les promoteurs arrivent avec des projets qui s'appellent littéralement cœur de ville, morceau de ville, où ils installent des places piétonnes avec des bancs, avec même des pistes cyclables qui du coup ne mènent à rien parce que c'est à l'intérieur du centre commercial, et en disant, regardez, nous sommes en train de recréer la ville pour vous. Est-ce que vraiment on veut que Vierzon disparaisse au profit d'un centre commercial qui s'appelle Loret de Sologne, qui est juste à côté. Et voilà, on n'aura plus une ville, on aura à côté un centre commercial. Dans une ville, on est un habitant, on est un citadin, on est un acteur de la vie culturelle, de la vie économique, de la vie commerciale, de tout ça. Et dans un centre commercial, on est juste un consommateur. Est-ce qu'on veut ça?
On a le sentiment, en effet, que les centres commerciaux veulent se substituer presque aux villes. Rémi Beurion, vous avez le sentiment que c'est le cas aussi à Vierzon, Et aussi, comment réagissent les habitants de Vierzon face à la fermeture des commerces de leur ville?
Écoutez, le paradoxe à Vierzon, c'est qu'effectivement, en 2010, on a eu ce qu'Olivier appelle le Red Sologne, c'est-à-dire c'est un complexe commercial avec des cellules dans lesquelles on met des enseignes. Il se trouve que paradoxalement, on avait vendu ce complexe avec une zone de chalandise de 100 000 habitants, mais le problème, c'est que comme tout le monde fait des zones commerciales, donc la zone de chalandise se rétrécit, et on arrive à une situation où cette zone-là, économiquement, elle est boiteuse. C'est-à-dire qu'on a eu plein de fermetures depuis, on a même un commerce qui a des difficultés économiques. Bon, après, il faut quand même considérer qu'il y a des gens qui vont dans ces centres commerciaux. C'est-à-dire, il y a une offre, donc les gens répondent à l'offre. Donc je pense que déjà, il y a un problème.
Même, hein.
Voilà, c'est ça. Ils vont là-bas parce que peut-être qu'ils trouvent pas ce qu'il faut en ville. Le paradoxe, par exemple, c'est qu'à Vierzon, on a perdu en un an, c'est-à-dire d'octobre 2015 à octobre 2016, 4 boulangeries. Il y a 4 boulangeries qui ont fermé dans le centre-ville. Et alors, voilà. Et moi, ce qui m'étonne là-dessus, c'est que, alors, vous parliez de déserts médicaux, mais c'est frappant, c'est qu'à un moment donné, on va se mobiliser, comme c'est pas permis, pour lutter contre les déserts médicaux, à tel point que à Vierzon, on construit même une maison, un centre de santé municipal. Ce qui veut bien dire, c'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, fonctionnariser les médecins, c'est-à-dire qu'ils seront payés à l'acte, mais ils seront rémunérés à fixe.
Pour les encourager à travailler dans la ville.
Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on va casser le système libéral, je ne sais pas si c'est un bon système ou un mauvais système, je ne vais pas tergiverser là-dessus, mais on va casser le système libéral, par exemple, des médecins, pour accueillir des médecins, les salariés, pour qu'à la fin du mois, ils aient leur salaire et leurs horaires. Et alors, toute cette espèce de combat contre les déserts médicaux, ces combats qu'on mène pour les services publics, mais je trouve ça noble de combattre la poste qui veut fermer un bureau ou un commissariat qui veut fermer. Mais pourquoi n'a-t-on pas en France et dans les villes, pourquoi les élus n'ont-ils pas la même énergie à vouloir sauver le commerce et donc leur ville, cette même énergie qu'ils utilisent pour essayer de sauver des services publics et de combattre les déserts médicaux.
Et pourquoi les habitants ne se mobilisent pas ou peu pour les
commerçants ? Mais non,
Les habitants se mobilisent, hein.
Oui, les habitants se mobilisent déjà parce qu'ils y vont. C'est déjà pas mal, je trouve, quelque part. Après, les habitants, ils se sentent un petit peu dépossédés. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que le pouvoir citoyen, je veux dire, est minime. Moi, j'ai tenté à Vierzon de faire quelques petites manifestations ponctuelles, d'ailleurs pour aider une commerçante qui risquait d'être virée de son local commercial et elle n'avait plus rien. En fait, c'était une commerçante à la rue. Bon, on a remué un peu nos réseaux à nous et puis on a trouvé quelqu'un qui a décidé de lui louer son local commercial en centre-ville. C'était super. Il peut y avoir ce genre de mobilisation, mais je me dis que à l'échelle du citoyen, on arrive à faire ça. Ce qui veut dire qu'à l'échelle municipale, départementale ou régionale, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de plus grand pour sauver les commerces ?
Alors certes, facile, hein, il suffit d'aller chercher les infractions de la grande distribution. Ça représente 418 milliards d'euros non perçus par l'État parce que l'État ne veut absolument pas aller rechercher les infractions de la grande distribution. Quand vous avez des hypermarchés qui fonctionnent avec des 3 ou des 4 000 mètres carrés de surface illicite, vous avez M. Valls qui a retiré le décret d'application pour aller chercher les infractions.
La question effectivement des autorisations des grandes surfaces et de leur extension ou même dans leur création se pose. On va parler des solutions aussi pour revitaliser les centres-villes, et puis pas seulement, aussi les autres quartiers, les quartiers anciens, comme on les appelle, des villes, dans un instant. Mais d'abord, Little Ghetto Boy de The Roots. Grandmother since was tailor made. Sundays Mahalia played. Simple familiar ways, like how she kneeled and prayed. Willing, master forgive us. Our trespasses had us real afraid. I never listened, yet I still obeyed. I got to see how Philly played at such an early age. What my father was into sent him to his early grave. The mom started chasing that bass like Willie Mays. My childhood was all of 40 nights and 40 days. Trouble was my ball and chain. Shorties would call me names. Humble beginnings, but a star is what it all became. My journey from a dirty hall to the Hall of Fame. Music, my therapeutic way to cope with all this pain. Was headed for the drain, soaking before the rain. Water came and chaos until the order came. I started doing what I'm supposed to do in life, trying to move out of the dark and closer to the light. They say if you get a chance to do it over, do it right. Tomorrow isn't promised every time you say goodnight. Know what I'm talking about? Story of a low ghetto boy. Check it out.
Ghetto boy. Oh. In the ghetto street, hey. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Yeah, yeah. Will you spend your day
to the neighborhood, little ghetto boy. You already know how rough life could be, 'cause you see so much pain and misery. Yeah.
La grande distribution responsable de ces désaffections des villes et de leurs centres, mais pas seule coupable, Olivier Razemont, vous vous mettez en cause plus largement ce qu'on appelle l'étalement urbain. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Depuis 50 ans, on construit la ville en dehors de la ville. On a magistralement développé l'espace urbain, finalement, bien au-delà de la ville existante et bien au-delà de la croissance de population, en fait. On a une croissance de la surface urbanisée bien plus importante que ce qui serait nécessaire par rapport à la population. Et aujourd'hui, en périphérie, on met des pôles médicalisés, on met Pôle emploi. Dans beaucoup d'endroits, c'est Pôle emploi qui est en périphérie. On met la maternité, l'hôpital, des hôtels, des cinémas. C'est pas juste les commerces. Et d'ailleurs, ça rejoint le fait que c'est pas seulement une affaire de commerce, cette
histoire.
C'est
aussi les services.
C'est aussi les services. Et puis, c'est du coup, évidemment, la vie se fait en dehors. Aujourd'hui, les espaces de loisirs sont également en dehors de la ville. Donc, on a cette tentation-là qui est un peu... Alors, évidemment, il y a le lobby de la grande distribution qui est très fort, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi ce que j'appelle moi la pente la plus douce. C'est-à-dire, ah bah oui, mais finalement, c'est plus simple. Là, on va accueillir une nouvelle entreprise. C'est sûr qu'on pourrait tout à fait reprendre un local existant en ville, mais c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas à qui ça appartient. Il faudrait aller voir des tas de notaires, des géomètres, etc. Oh bah, on n'a qu'à prendre un champ là, qui vient de se transformer en zone constructible. Et puis voilà. Donc il y a cette tentation-là. Et tant qu'il n'y a pas une prise de conscience de l'ensemble des acteurs à tous les niveaux, notamment de la municipalité, mais locaux, etc., la presse régionale, tout ça, on n'arrivera pas à contrer ça, en fait. Donc, voilà.
Et pour parler...
Alors, nous, on a la solution.
Oui.
Puisqu'on a créé une fédération qui s'appelle Des Terres, Pas d'Hyper, et qui regroupe plus de 18 collectifs de citoyens qui se battent justement contre cet...
Alors, on vous a perdu cet étalement, vous voulez dire...
Qui s'est permis de construire, hein.
Cet étalement commercial, vous voulez dire. Vous vous battez contre
ça. L'étalement urbain et l'étalement commercial. Parce que, de toute manière, les infrastructures, il faut savoir que les infrastructures, des fois, elles sont encore plus importantes que les surfaces créées par la grande distribution. Hein.
Tout à fait. Aujourd'hui, quand on crée une gare TGV en France, on ne se pose pas vraiment de questions, on la met en dehors de la ville. Et même si à l'intérieur de la ville, comme c'est le cas à Perpignan, Montpellier, où ça a été le cas il y a longtemps à Besançon, les gens disent « Ah ben non, on aimerait avoir le TGV directement à la gare ». Mais c'est plus simple, ça semble plus simple pour l'architecte de la SNCF, pour tout le monde. « Ah ben non, mais vous comprenez, ça, on cache ça, on dit « On va mettre la gare, comme c'est le cas à Belfort, au cœur de l'agglomération ». Non, au cœur de l'agglomération en l'occurrence, Belfort-Montbéliard, ça veut dire en plein champ en l'occurrence. Donc on a
évidemment,
vraiment...
ça a un impact sur les commerces autour de la gare.
Mais pas seulement sur les commerces, mais surtout sur l'ensemble de la vie dans l'agglomération. C'est-à-dire que du coup, tout finit par se faire dans un espace beaucoup plus vaste. Tout se fait en voiture individuelle, forcément. On a à ce moment-là des grands présupposé qui est qu'il faudrait que tout le monde ait une voiture individuelle, que tous les trajets se feraient uniquement de cette manière-là et que ce serait intangible. Et le résultat pratique, c'est qu'effectivement, dès qu'on dit aux gens, vous savez, vous pourriez vous garer à 500 mètres de votre commerce ou de votre activité quelconque et puis ensuite marcher à pied dans la ville. Ah mais non, mais moi je voudrais me garer devant parce que la grande distribution m'a appris à pouvoir me garer devant tout le temps. Donc on a aussi cette bagnolisation de la vie finalement qui explique largement ce qui est en train de se passer.
Et justement, pour de nombreux commerçants, même pour certains élus, c'est la voiture qui va permettre de relancer le commerce des villes. Donc il faudrait des rues plus larges et surtout plus de places de stationnement, plus de parking. Rémi Beurion, c'est le cas à Vierzon. On pense que la voiture et faciliter l'accès des voitures dans le centre, c'est la solution.
Là, disons que nous, à Vierzon, on est quand même une petite ville de 27 000 habitants, très étendue, parce que, en fait, pour rapidement l'histoire, il y avait quatre communes qui se sont rassemblées en 1937. Et depuis, en fait, Vierzon, c'est un patchwork de quatre communes très distinctes, avec des distances assez impressionnantes, quand même, entre le centre-ville, par exemple, et un autre quartier. Il y a facilement 4 km. Bon, la voiture, nous, on n'a jamais voulu, à Vierzon, il n'y a jamais eu un vrai combat contre la voiture. D'accord ? Il n'y a pas eu ce combat-là. Avec les autoroutes et puis les déviations, en fait, on a très peu, on n'a pas énormément de circulation au centre-ville. En revanche, il y a un phénomène qui est en train de se dessiner, là, récemment. La ville de Vierzon aurait pris, je dis bien aurait, parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais ils en ont parlé, aurait pris la décision de rouvrir la seule rue piétonne de Vierzon à la voiture. Donc en gros, on a comme solution la même rue dont je parlais tout à l'heure, qui a 32 commerces vides et 16 ouverts. C'est-à-dire qu'en gros, pour amener de l'animation et pour remplacer en fait l'animation que créent les commerces, eh bien on va rouvrir à la voiture. Alors je ne vois pas où est l'intérêt, d'autant que c'est une rue qui n'est pas du tout faite pour la voiture, mais pour les piétons. Après, c'est vrai que les gens aiment se garer au pied de leur commerce. Je vois l'artère principale de Vierzon qui s'appelle l'avenue de la République. Il n'y a plus de commerce de bouche parce que peut-être que les gens ne pouvaient pas se garer pile poil devant leur boucher, pile poil devant leur charcutier ou devant leur boulanger.
On arrive à la fin de cette émission. Olivier Razemont, peut-être pour conclure, comment redonner...
J'ai un détail qu'il faudrait quand même...
Oui, je vous laisse vous exprimer, Martine Donnet.
Et voilà, qu'on n'oublie pas, c'est quand même que les commerçants indépendants, ils ont 65,7% de charges. Si on allait chercher les infractions de la grande distribution, les 418 milliards que la grande distribution doit à tous les consommateurs, puisqu'il faut savoir aussi que le consommateur participe.
On pourrait alléger, alléger les charges des commerçants.
On est en train de voir effectivement
que les solutions... Voilà, donc ces 418 milliards permettraient de faire baisser les charges.
On a bien
et si
compris,
les commerçants avaient que 30% de charges, peut-être qu'ils pourraient aller dans les centres.
En fait, on est en train de voir que les solutions sont multiples, qu'il n'y a pas une seule solution, qu'il faut observer ça avec beaucoup d'attention, notamment la manière dont les gens se déplacent, mais pas seulement. Effectivement, la manière dont s'organise la vie. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans chaque ville dans laquelle je vais, je rencontre des gens tout à fait décidés, comme Rémi, on s'est rencontré il y a quelques jours à Vierzon, qui ont effectivement compris. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se laissent prendre par la pente la plus douce, la chose la plus facile à faire, habiter en périphérie et tout faire en périphérie. Et j'ai croisé déjà des gens qui habitent à 30 km de Mulhouse, qui n'ont jamais mis les pieds à Mulhouse.
Il va donc falloir que les citoyens se réveillent et soient attachés aussi à leur ville pour les défendre. Merci à vous, Olivier Razemont, Rémi Beurion, Martine Donnet. Merci à toute l'équipe, Stephen Elsley, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Didier Chérouse. Merci aussi aux équipes de France Bleu Provence. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. À très bientôt, 7 milliards de voisins.
France 24 vous accompagne.